Frères et sœurs, en ce premier dimanche de l'Avent, nous recevons comme une lumière nouvelle dans notre vie, dans notre cœur, la grâce, la paix de la part de l'Éternel qui nous appelle à renouveler incessamment notre regard sur la vie, à avoir un regard non seulement positif, mais nourri de cette espérance qu'il instille au plus profond de notre existence. Et cela, nous pouvons l'exprimer à travers ce premier répond que nous allons chanter en suivant notre livret liturgique qui se situe au début du psautier français. Réjouissons-nous au Seigneur, égayons-nous en son honneur. Une joie toute recueillie. En ce dimanche où nous allons reconnaître le ministère de ce conseil presbytéral nouvellement élu, nous élevons vers Dieu notre louange en pensant précisément à ce ministère. Oui, Éternel notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Dans ton amour libérateur, tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être tes serviteurs, porteurs de lumière, porteurs d'espérance, solidaires de toute l'humanité. Nous te louons, nous te bénissons, car tu t'es présenté en serviteur pour réconcilier tout homme avec la vie. Tu as donné ta vie pour nous rendre notre humanité véritable, pour nous révéler notre dignité d'enfant de Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Tu suscites l'Église, tu la rassembles pour l'adoration, tu l'envoies dans le monde, tu lui donnes la force de vivre sa foi et d'en témoigner. Nous te louons, nous te bénissons. Amen. Et le psaume 62, dans son harmonisation de Genève, donc le psaume 62b, sera l'occasion avec les strophes 1, 3 et 5 de chanter notre louange, psaume 62.
Thank you.
Prenons place. Prenons place pour entendre une légère exhortation que nous trouvons dans une lettre de Paul adressée à l'église de Thessalonique. Nous vous y exhortons, frères, reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée, donnez du courage à ceux qui en ont peu, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez toujours le bien entre vous et à l'égard de tous. Je ne veux pas ce matin faire la liste de tous mes manquements, de toutes mes fautes, de mes faiblesses et de mes imperfections. Je le sais bien, tu le sais bien, je ne suis pas un être parfait. Je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie. Non plus seulement les pensées furtives, les prières secrètes, les élans momentanés que je t'accorde, mais toute ma vie, ces jours et ces nuits, ces grandeurs et ces faiblesses, afin que toute ma vie soit apaisée et renouvelée par toi. C'est vrai, tu n'es pas le seul Dieu dans mon existence, il y en a tant d'autres, je le reconnais. Et il y en a un immense, c'est moi-même. Je te demande, Père, de me libérer de l'angoisse de vouloir tout maîtriser. De me délivrer de la pensée que je dois faire mes preuves à chaque instant. Rappelle-moi que la paix vient de toi. Que la vie vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Amen. Toujours dans cette lettre de Paul aux Thessaloniciens, nous entendons ceci, qui résonne comme une parole de grâce. Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous afin que, veillant ou dormant, nous vivions alors unis à lui. C'est pourquoi réconfortez-vous mutuellement, édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà.
Nous prenons place et je cède maintenant la parole à Marie-Noëlle Sicard, vice-présidente du conseil régional de notre église et membre du synode national qui, à ce titre, représente notre autorité synodale pour la reconnaissance de ministère de ce conseil.
Merci beaucoup. Bien, nous allons maintenant reconnaître le ministère du conseil presbytéral de l'oratoire du Louvre. Et pour former ce conseil, comme vous le savez, l'Assemblée générale a élu un certain nombre de personnes que je vais appeler maintenant. Daniel Aubi, donc si vous voulez me rejoindre ici. Bénédicte Boissonnat. Francine Bronstein. Jean-Luc Buisson. Christine Demesse, qui est absente, retenue aujourd'hui. André Ducrot. Bernard Guttinger, Daniel Joanneau, Juliette Lauverja, Samuel Le Goff, Christophe Mallet, Alain Moineau, Aurélien Peter, Oli Ravelo-Arizoa, Isabelle Santesteban, Marc Vestrat, Marion Vetreneau. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, dans la communion de l'Église universelle, nous vous recevons comme serviteurs du Christ au sein de l'Église réformée de France, dont nous écoutons maintenant la déclaration de foi. Je vous invite l'Assemblée à vous lever pour la déclaration de foi. Au moment où elle confesse sa foi au Dieu souverain et au Christ sauveur, l'Église réformée de France éprouve avant toute chose le besoin de faire monter vers le Père des miséricordes le cri de sa reconnaissance et de son adoration. Fidèle aux principes de foi et de liberté sur lesquels elle est fondée, dans la communion de l'Église universelle, elle affirme la perpétuité de la foi chrétienne à travers ses expressions successives dans le symbole des apôtres, les symboles œcuméniques et les confessions de foi de la Réforme, notamment la confession de La Rochelle. Elle en trouve la source dans la révélation centrale de l'Évangile. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avec ses pères et ses martyrs, avec toutes les églises issues de la Réforme, elle affirme l'autorité souveraine des Saintes Écritures, telle que la fonde le témoignage intérieur du Saint-Esprit, et reconnaît en elle la règle de foi et de la vie. Elle proclame devant la déchéance de l'homme le salut par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, qui a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Elle met à la base de son enseignement et de son culte les grands faits chrétiens affirmés dans l'Évangile, représentés dans ses sacrements, célébré dans ses solennités religieuses et exprimé dans sa liturgie. Pour obéir à sa divine vocation, elle annonce au monde pécheur l'évangile de la repentance et du pardon, de la nouvelle naissance, de la sainteté et de la vie éternelle. Sous l'action du Saint-Esprit, elle montre sa foi par ses œuvres, elle travaille dans la prière au réveil des âmes, à la manifestation de l'unité du corps de Christ et à la paix entre les hommes. Par l'évangélisation, par l'œuvre missionnaire, par la lutte contre les fléaux sociaux, elle prépare les chemins du Seigneur jusqu'à ce que vienne, par le triomphe de son chef, le royaume de Dieu et sa justice. À celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, de génération en génération, au siècle des siècles. Amen. Voilà, si vous voulez bien vous asseoir. Voilà, les membres du Conseil presbytéral vont donc prendre un certain nombre d'engagements devant vous. Frères et sœurs de l'Église de l'Oratoire, vous exercerez le ministère qui vous est confié en accord avec la foi de notre Église et selon les règles de sa vie commune. Dans la soumission mutuelle, vous travaillerez fraternellement avec tous ceux qui ont part à l'œuvre du Seigneur. Vous serez responsables de vos frères et de vos sœurs. Vous les encouragerez par votre vie. Vous vous garderez de tout ce qui pourrait faire tomber les plus petits. Vous serez discret dans vos propos. Vous serez vigilant dans la prière, persévérant dans l'écoute de la parole, fidèles au repas du Seigneur, assidus aux assemblées de l'Église. Vous poursuivrez votre formation spirituelle, théologique, humaine. Ainsi, vous aurez à cœur de renouveler l'élan de votre ministère. Est-ce bien là ce que vous voulez ? Vous qui êtes appelés à former le conseil presbytéral de cette Église, vous porterez ensemble la responsabilité spirituelle et matérielle de la communauté. Vous discernerez, reconnaîtrez, coordonnerez les ministères que Dieu donne à cette Église pour qu'elle grandisse dans l'amour et soit aux soins du monde messagère de l'Évangile. Vous serez solidaire des décisions que prendra votre conseil et vous préparerez et appliquerez les décisions des synodes. Est-ce bien là ce que vous voulez ? Frères et sœurs, je m'adresse à la communauté. Vous venez de recevoir les engagements des membres du Conseil presbytéral. Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Nous prierons pour nos frères et nos sœurs et nous les soutiendrons. Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant. J'invite Marc, à ceux qui doivent imposer les mains, Marc Pernaud, James Woody, Gilles Deveau, président de l'entraide de l'oratoire. Nous t'en prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à nos frères et à nos sœurs que nous recevons et établissons comme conseillers presbytéraux dans ton Église. Donne à ce conseil d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles, pour qu'il garde ton peuple dans la communion fraternelle, l'unité du corps du Christ et l'accomplissement de sa mission. Amen. Église du Christ, réjouis-toi pour les ministères que le Seigneur te donne. Et vous, membres du Conseil presbytéral, vous n'êtes pas seuls. Réjouissez-vous d'avoir part à l'annonce de l'Évangile. Le Seigneur est fidèle. Bien, vous pouvez vous asseoir. Les conseillers regagnent leur place. Et André prend le micro. Notre président.
Chers amis, les membres du Conseil presbytéral et moi-même tenons à vous dire notre gratitude et notre reconnaissance pour la confiance que vous nous avez témoignée dimanche dernier en nous élisant. Cette confiance, elle nous honore et elle nous rend humbles face aux responsabilités qu'elle représente. Nous savons tous au Conseil qu'un mode de gouvernement ecclésial est obligatoirement porteur de convictions spirituelles, comme cela vient d'être dit il y a une seconde par la voix de Marie-Noël. Et elles sont porteurs, à leur façon, d'une certaine manière, d'une forme de prédication qui est à côté de celle de nos pasteurs. Nous sommes, au sein de ce conseil presbytéral, tous porteurs de compétences personnelles, professionnelles, d'expériences humaines que nous avons vécues et que vous avez bien voulu reconnaître en chacun de nous en nous élisant. Soyez assurés que nous les mettrons collectivement au service de cette communauté pour, du moins nous l'espérons, produire le meilleur. Les engagements communs pris ce matin lors de cette reconnaissance liturgique nous oblige vis-à-vis de chacun d'entre vous. Nous travaillerons et déciderons au Conseil dans un esprit de fraternité, de responsabilité et de respect à l'égard les uns des autres. Comme cela vient de nous être rappelé, nous respecterons les principes de discrétion et de sagesse dans nos décisions, toujours à l'écoute de la parole. C'est collectivement ce à quoi ce matin nous nous sommes engagés devant vous, en prenant l'engagement de porter la responsabilité spirituelle et matérielle de la communauté. La collégialité et le travail en équipe sont en effet une reconnaissance de l'autre comme une nécessité spirituelle. Ce sera mon rôle de président de veiller à ce que chaque membre trouve sa place et que personne ne prenne l'ascendant sur autrui. Je veillerai à ce que chacun soit dans son rôle et trouve la confiance nécessaire pour faire et bien faire ce qu'il doit faire. Avant d'être discuté, en conseil presbytéral, les projets, les propositions seront d'abord débattu au sein d'une instance plus réduite, le bureau du Conseil, instance de vérification, de validation qui prépare et facilite la prise de décision du Conseil presbytéral. C'est ainsi que fonctionne notre système démocratique avant, au cours d'une assemblée générale, de vous être proposé une fois par an. Nous aurons en permanence au Conseil, je puis vous l'assurer, d'abord, le souci de maintenir ce qui a déjà été entrepris par la précédente mandature, le lien entre toutes les structures et les associations si nombreuses de cette paroisse, si vivante, avec toutes les associations, l'entraide, le cœur, la nouvelle association, l'atoll, tous les bénévoles qui participent à la vie de cette paroisse, ceux qui préparent le repas auquel nous participerons tout à l'heure, tous les bénévoles de la vente qui ont magnifiquement travaillé ce week-end encore et qui ont contribué au succès de la vente, les jeunes, les scouts, les éclaireurs qui hier encore nous ont donné un sérieux coup de main pour rétablir et ranger ce temple, et je les en remercie comme tous les bénévoles de la vente sincèrement et chaleureusement ce matin. Nous aurons également comme souci de nous rappeler qu'il n'est impossible de jamais séparer notre attitude envers Dieu de celle envers notre prochain. Et comme cela a été rappelé par Marie-Noël, si Dieu nous a aimés le premier, nous a rendus libres le premier, nous espérons que ce ministère sera pour nous l'occasion de devenir source de liberté et d'amour vis-à-vis des plus fragiles, des plus faibles dans notre société qui en ont tant besoin. Et nous nous appuierons là-dessus sur les associations qui travaillent dans ce sens. L'entraide, bien sûr, de l'oratoire, mais les associations sœurs de cette paroisse, la Clairière, le CASP, avec qui les liens seront maintenus. Nous porterons ainsi la fraternité en Jésus-Christ vis-à-vis de tous ceux qui en ont tant besoin dans notre société. Et puis, nous avons pris l'engagement de nous occuper aussi des choses un peu plus matérielles, un peu plus concrètes. L'entretien de ce magnifique édifice qui est monument historique. Alors, vous le savez, la précédente mandature avait commencé, avait initié les travaux de l'orgue qui vont avoir lieu dans quelques semaines. Je n'ai pas la date encore précise, mais au début de l'année 2013, et notre organiste Jean-Dominique, qui quittera pendant quelque temps sa tribune là-haut pour venir nous accompagner depuis l'orgue qui est en bas, parce que pendant plusieurs semaines, l'orgue sera inutilisable. Mais au sein du Conseil, nous avons d'autres projets d'amélioration pour les chapelles, mais tout cela vous sera présenté lors de l'Assemblée Générale, puisque nous en débattrons lors des Assemblées Générales. Je ne terminerai pas cette intervention sans adresser d'abord un chaleureux remerciement à tous les conseillers presbytéraux sortants. Eux aussi nous ont donné pendant la précédente mandature leurs compétences. Ils nous ont fait bénéficier de leur savoir. Ils nous ont donné du temps, de l'énergie. Qu'ils en soient fraternellement remerciés. Beaucoup d'entre eux, bien sûr, continueront à exercer des fonctions de bénévolat au sein de la commune, de la communauté, pardon. Et puis, je pense que le Conseil presbytéral s'associera à moi pour adresser plus personnellement un remerciement très fraternel à celui qui, pendant 6 ans, a été notre président, Philippe Godin. Excusez-moi. À ses côtés, j'ai été, en tant que vice-président, très heureux de travailler avec lui. Pardon, cher Philippe, d'avoir une citation pas très philosophique, mais un écrivain qui s'appelle Françoise Sagan disait « Le bonheur, c'est quand on est bien ». Moi, c'est une définition du bonheur qui me convient tout à fait. Et à tes côtés, j'ai travaillé pendant toutes ces années en étant bien. Je venais au conseil presbytéral en étant bien. Nous discutions tous les deux avec beaucoup de liberté. J'ai beaucoup appris à ton contact et je crois que ça a été pour l'ensemble des membres du Conseil une période où nous avons été bien de venir au Conseil presbytéral. J'espère que mes sœurs et mes frères de l'actuel Conseil auront le même bonheur à venir travailler avec nous, avec moi, au sein de ce Conseil presbytéral. Philippe, merci. Merci pour tout, pour tes conseils. Et je sais que, bien sûr, tu resteras très actif dans la paroisse puisque Philippe continuera d'animer les réunions, les débats, les disputations qui se tiendront régulièrement ici. Je terminerai enfin en vous disant que, grâce au Conseil presbytéral, grâce à vous tous, c'est tout à fait personnel, mais jamais dans ma vie d'adulte, je ne me suis jamais senti autant soutenu pour apprendre à devenir ce que je suis. Je vous remercie de votre attention et bon dimanche.
Chers frères et sœurs, comme annoncé vendredi soir par Werner Burki, une petite méditation pour les conseillers presbytéraux sur ce thème du serviteur inutile. Peut-être en vous disant d'ores et déjà que je ne vais pas vraiment vous dire que je suis convaincu par l'idée selon laquelle il faudrait être serviteur inutile et se considérer comme un serviteur inutile et considérer que ce que nous devons faire doit être défini comme le service d'un serviteur inutile. Je vais peut-être vous proposer une lecture plus inspirée par le puritanisme. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17, voici ce que nous entendons de la bouche des apôtres, qui sont encore disciples, et la réponse qui va leur être faite par Jésus. Luc, chapitre 17. Les apôtres dirent au Seigneur, « Ajoute-nous de la foi, augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous avez la foi comme un grain de sénevé, petite graine de moutarde, si vous avez la foi comme un grain de sénevé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche-toi vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi un souper, mets ta ceinture, serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Voilà, sur ces paroles édifiantes, nous allons prendre le temps de la respiration en chantant au cantique 258, les strophes 1, 2 et 3 du cantique 258. Nous nous levons pour cela. Seigneur, donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre demeure en nous et ainsi transformer notre vie. Seigneur, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, pour qu'il vienne en notre cœur nous donner force et courage d'être. Force et courage de témoigner de toi dans notre vie. Seigneur, donne-nous par ta parole l'esprit de liberté, ce souffle de vie qui réveille les hommes et les invite à te suivre. Chers frères et sœurs, je suis d'avance d'accord avec vous. Le monde irait déjà bien mieux si chacun faisait ce qu'il a à faire. Si chacun accomplissait honnêtement son devoir. Seulement voilà, du point de vue de Jésus, à travers le regard de mon interprétation vis-à-vis de ce texte, il me semble que faire son devoir est tout à fait insuffisant. Certes, faire ce que l'on doit faire semble normal et bien approprié. Mais Jésus n'a que faire de la normalité et de la vie ordinaire. Quand nous atteignons nos objectifs, ceux-là même que nous nous sommes fixés, lorsque nous accomplissons notre mission, nous n'avons rien fait d'autre que faire ce qu'il fallait faire. Et quel mérite y a-t-il à cela ? Quel mérite y a-t-il à faire ce que l'on doit faire ? C'est comme aimer les gens qui sont aimables. Même les païens le font, dira Jésus à un autre moment, recommandant d'aimer plutôt ses ennemis. Voilà qui n'est pas ordinaire. Au jour le jour, nous sommes déjà contents en vérité lorsque nous arrivons à atteindre nos objectifs, lorsque nous arrivons à faire ce que nous nous étions fixés. Et cela est encore plus vrai pour ceux qui nous entourent, ceux-là pour lesquels nous avons tant de facilité à repérer toutes les pailles qui sont en travers de leur regard. Mais Jésus, je crois, ne peut pas faire autrement qu'essayer de nous faire comprendre qu'il n'est pas possible de se contenter de cela. Il ne suffit pas de faire ce qu'il a écrit sur la liste des tâches pour être quitte. Observez les machines. Les machines aussi font ce pour quoi elles ont été fabriquées, sauf les ordinateurs parfois. Et nous sommes bien d'accord pour dire qu'il n'y a pas lieu de s'extasier ou de se répandre en remerciements envers son lave-vaisselle lorsque les assiettes ont été nettoyées. Le matin, vous n'êtes pas émerveillé par votre grille-pain qui a accompli sa tâche. On râle lorsque la voiture tombe en panne, mais je ne pense pas que vous soyez du genre à élever quelque action de grâce lorsqu'elle roule. Et c'est normal, elle fait son métier de voiture. À notre niveau, Nombreuses sont les choses que nous faisons et qui ne suscitent ni reconnaissance ni remerciement. Jésus attire notre attention sur le fait que c'est compréhensible. Ce matin, nous entrons dans le temple et nous trouvons cela normal que le temple soit en disposition temple, plutôt bien rangé, plutôt propre, alors qu'il y a quelques heures encore, c'était la vente. Ici même. Personne n'est allé voir le sacristain en lui disant oh, « c'est vraiment merveilleux ». C'est normal. Lorsque votre conjoint, celui qui ne fait pas les courses, rentre et que le réfrigérateur est plein, c'est normal. Mon épouse est de l'autre côté, tout va bien. Rien d'extraordinaire à cela, à vrai dire. On ne remercie pas pour la vie quotidienne. En fait, il y aurait lieu de remercier, bien entendu. Mais cela n'a rien d'extraordinaire de faire la tâche qui nous est assignée. Et vous, conseillers presbytéraux, vous allez travailler sur des dossiers, vous allez procéder à des arbitrages, vous ferez en sorte qu'il y ait une vie d'église intéressante, sans recevoir pour autant à chaque fois un remerciement vif et appuyé. Il y a même des chances que vous entendiez plutôt ce qu'il faudrait encore arranger, ce qui ne va toujours pas et ce qui décidément ne va vraiment pas dans cette église. Mais c'est normal. J'allais dire, on vous paye pour cela. Bon, il n'y a rien de plus faux. Mais c'est la mission qui vous est confiée. Il est donc normal que vous l'accomplissiez honnêtement. Le conseil aura fait son travail et c'est bien le moins qu'on attend de lui. Dans la logique de Jésus, faire ce que l'on doit faire, c'est accomplir la loi. Et cela n'a rien d'exceptionnel. Cela n'a rien de merveilleux. Dans l'esprit de Jésus, il me semble que la loi doit être mieux que respectée. Elle doit être accomplie. Cela signifie que nous ne devons pas nous contenter de faire ce qu'il y a d'inscrit sur notre fiche de poste au travail ou dans notre engagement bénévole, ni par exemple se contenter de respecter à la lettre les articles du Code civil relatifs au mariage dans notre vie de couple. Sinon, c'est triste et ennuyeux. Accomplir la loi, selon les paroles de Jésus, me semble-t-il, celles qui courent tout au long des évangiles, accomplir la loi, c'est vivre selon l'évangile. Cet évangile qui nous invite à retrouver l'esprit de la loi, l'esprit de la loi, ce vers quoi la loi essaie de nous porter, l'horizon que la loi s'efforce d'ouvrir devant nous et lui permettre de donner toute sa mesure en y injectant notre personnalité. C'est la différence qu'il y a entre un organiste qui, mécaniquement appuyé sur les touches de l'orgue, pour suivre la partition qui lui est confiée, et l'organiste qui s'implique dans une interprétation, qui donne de lui-même, qui fait non seulement vibrer l'orgue, mais aussi la partition, et qui donne un sens qu'il apporte à la communauté. Le serviteur cesse d'être inutile, me semble-t-il, lorsqu'il cesse d'être interchangeable. Et au fond, c'est chacun de vous qui a été élu dimanche dernier. Ce n'est pas une masse informe, anonyme. Chacun de vous a reçu les suffrages de l'Assemblée générale. Non pas pour faire nombre, non pas pour atteindre le chiffre des 17 conseillers presbytéraux. Parce que la vérité est que vous n'avez pas été élu pour beurrer les sandwichs. Vous avez été appelé pour contribuer à l'effort commun avec vos talents, vos convictions, votre sensibilité propre. Et c'est l'alliance de ce que nous sommes, de ce que nous voulons, de ce que nous savons, de ce que nous croyons, de ce que nous représentons, qui nous permettra de ne pas se contenter du possible, qui nous permettra de ne pas se contenter simplement de la fiche de route qui a été redite à l'occasion de cette reconnaissance de ministère, et qui nous permettra aussi de ne jamais considérer une situation comme déterminée à l'avance, une situation définitive, avant de s'en être préoccupés tous ensemble. Tous ensemble. Le sycomore est réputé pour être un arbre particulièrement bien enraciné dans la terre. Mais la vérité est que nous n'avons que faire des réputations. Nous n'avons que faire des idées reçues. Et nous n'avons que faire des oiseaux de mauvaise augure qui auraient un malin plaisir à dire « ça ne marchera jamais, on a déjà essayé ». Décider de déraciner un sycomore et de le planter dans la mer, c'est non seulement avoir la conviction qu'un autre ordre du monde est possible, qu'il n'y a pas de fatalité, mais aussi que les difficultés, les vrais problèmes, ce que représentait la mer pour le peuple hébreu qui n'était vraiment pas un peuple de la mer, eh bien, considérer que ces difficultés et ces vrais problèmes peuvent devenir un oasis, un lieu où la vie est pourtant possible. L'Évangile, ce n'est pas déclarer que la loi est caduque. C'est dépasser la loi pour transfigurer le monde, pour le rendre plus vivable que ce que la loi permet. La loi dit « Essayez de quitter cette église en la laissant aussi propre que vous l'avez trouvée en arrivant. » Eh bien, l'Évangile dit que cette église devra être encore plus belle que vous ne l'avez trouvée en arrivant ici. L'Évangile dit « Efforçons-nous de faire en sorte que le monde ne se défasse pas. » L'Évangile nous dit « Construisons le monde. » Non pas par un effort de notre volonté, non pas parce qu'il faudrait imaginer Sisyphe heureux, mais parce que nous sommes équipés pour cela. Parce que nous sommes capables de certains accomplissements, parmi lesquels ceux-là. Là où la loi s'efforce de maintenir le monde en l'état, l'Évangile nous dit que nous sommes capables de ne pas laisser les choses en l'état, mais de les améliorer, de les transfigurer, de les rendre autrement plus justes, autrement plus fraternelles, autrement plus intéressantes. Comme le disait Théodore Monod, l'Évangile nous permet de vivre l'ordinaire de la vie de manière extraordinaire. Eh bien, c'est de cela dont il est question. Vous qui avez été élu de la manière la plus ordinaire qui soit, pour accomplir un service le plus ordinaire qui soit, le secret espoir de tous ceux qui vous ont confié ce mandat est que vous le viviez de manière extraordinaire. L'Évangile, c'est cette invitation à réenchanter le monde. Réenchanter le monde. Vous me direz, il faut bien être dans une église au cours d'un culte pour entendre une chose pareille. Cela peut sembler un projet fou. Réenchanter le monde. Quelque chose d'inatteignable. Réenchanter le monde. C'est aussi peu crédible qu'un sycomore qui viendrait se planter dans la mer. Quelque chose tellement hors de notre portée que nous sommes à peu près sûrs d'échouer et à peu près sûrs de nous considérer dans quelque temps comme un serviteur inutile, incapable. Tout l'inverse de ce que nous avons chanté dans le petit cantique qui précédait cette prédication. Le serviteur inutile, dans la langue grecque, c'est par exemple ce corps d'armée qui est impropre à la bataille. Et nous avons chanté que nous étions prêts pour la bataille. La vérité, c'est que l'Évangile place la barre quand même assez haut. En ne se contentant pas de la règle commune, en ne se contentant pas de l'ordinaire, il se peut que nous soyons un peu désemparés par quelque chose d'inatteignable, d'inaccessible, une utopie. L'utopie peut nous épuiser. Et nous sommes toutes et tous guettés par ce moment où ce feu sacré, devient en fait un feu qui nous dévore de l'intérieur, laissant juste la façade d'un corps qui ne contient plus rien, qui est vide de toute capacité, de tout désir, de tout espoir. Nous sommes toutes et tous susceptibles d'être frappés par ce qui est appelé ce « burn-out », ce moment où nous ne faisons plus que nous fatiguer dans le service. Nous avons le sentiment que tous les objectifs deviennent inatteignables. Nous perdons toute estime de soi. Où nous ne parvenons plus à prendre de décisions. Où il n'est même plus question de planter un sycomore dans la mer, tant nous nous noyons à longueur de journée dans les petits verres d'eau qui nous sont donnés. Et c'est le moment où nous nous sentons cruellement serviteurs inutiles. Inutiles au sens du grec, incapables, bons au rebut, réformés, mais dans le mauvais sens du terme. Seulement voilà, l'Évangile n'est pas hors de notre portée. Dès le Deutéronome, nous entendons à quel point la parole de l'Éternel n'est pas quelque chose d'inaccessible, là-haut dans le ciel, au-delà des mers. Non, c'est là, tout près, à portée, dans notre cœur. Ce n'est pas une sorte de chimère improbable, ce genre de mirage qui, un jour, nous fera mourir de soif à force d'être toujours un peu plus loin. Cela peut sembler vraiment au-dessus de nos forces, tant la tâche est immense, infinie, et tant nous pouvons avoir le sentiment que nos capacités sont extrêmement modestes. Peut-être avons-nous parfois le sentiment que notre foi est même misérable. Et pourtant, Jésus indique que nous n'avons besoin de rien d'autre que notre foi minuscule pour accomplir ces grandes choses auxquelles nous sommes appelés. Inutile d'implorer le divin pour avoir une deuxième épaisseur de foi. Une foi grande comme un grain de sénevé, ce petit grain de moutarde suffit pour réaliser des choses extraordinaires. Une foi qui, vous l'avez peut-être remarqué, n'est pas qualifiée dans l'Évangile selon Luc. On ne dit pas si c'est une foi en Christ, une foi en Dieu, une foi... Non, il n'y a pas d'objet. Il y a beaucoup de place laissée à cette interprétation dans l'Évangile de Luc pour découvrir ce qu'est la confiance qui nous permettra de pouvoir planter des sycomores en mer. Et j'aimerais relever trois possibilités pour cette foi. Pointer trois types de confiance qui seront pour vous trois points d'appui tout au long de votre ministère et qui, c'est à souhaiter, vous éviteront toute forme de burn-out. Il y a d'abord la confiance en soi. Il nous arrive parfois, et il vous arrivera probablement, de se sentir nul, disons-le clairement, sans valeur, en tous les cas pas à la hauteur. Eh bien, dans ce cas, rappelez-vous que vous avez été appelé à ce service. Le conseil précédent, en faisant son travail de discernement, a repéré en vous des qualités qu'il a estimées précieuses. Il a décidé de faire appel à vous et il a présenté votre candidature à l'Assemblée générale. Quel que soit le jugement que vous portiez sur vous, à un moment où le moral serait un peu en berne, souvenez-vous qu'il y a au départ de cette aventure un acte de reconnaissance à votre endroit, un acte de reconnaissance individuelle, personnelle, un acte qui dit votre valeur individuelle. Et cela n'est pas sans rappeler aussi ce que le baptême révèle. Il révèle qu'au départ de notre vie, il y a une parole qui dit que nous avons du prix aux yeux de Dieu et que rien, jamais, ne pourra nous retirer cela. Cela signifie que nul parmi vous n'usurpe la place qui lui est confiée. C'est une place qui vous a été offerte. Non pour vos mérites, ce qui ne veut pas dire que vous n'en ayez pas, mais pour votre valeur intrinsèque, pour vos qualités humaines qui, parfois, peuvent intégrer aussi une expertise professionnelle. Bref, cet appel originel, au bénéfice duquel vous êtes, est une raison sérieuse d'avoir foi en vous et de ne pas limiter vos interventions, de ne pas vous brider de peur de ne pas être suffisamment autorisé. Nous vous reconnaissons comme autorisé. Votre deuxième point d'appui, le deuxième objet de la confiance, c'est l'autre, les autres, ceux qui sont là assis à côté de vous dans ce... C'est pas le parc à huîtres, c'est le banc des conseillers presbytéraux. Voilà, vous me faites dire des choses. Comme cela a été rappelé, votre ministère est collégial. C'est la reconnaissance du ministère du conseil presbytéral et pas la reconnaissance du ministère des conseillers presbytéraux qui a eu lieu tout à l'heure. Votre ministère est un ministère collégial. Ce n'est pas individuellement que vous aurez des comptes à rendre à l'Église. Il y a une équipe, et cette équipe, c'est votre équipe, avant toute chose. Au sens le plus banal du terme, cela signifie que vous pouvez compter les uns sur les autres. Ici, les difficultés s'affrontent à plusieurs. C'est une équipe qui pose la confiance au cœur de sa raison d'être. Et cela signifie que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Chacun a sa place, chacun a ses responsabilités. Des délégations vous ont déjà été confiées. Mais c'est ensemble que nous portons la vie de la communauté. Et prenez cela comme un soulagement, pas comme le fait qu'on vous retirerait un peu de pouvoir. Lorsqu'une décision est prise, c'est ensemble que nous assumons cette décision, même si individuellement, ce n'est pas le choix que nous aurions fait. La foi en l'autre, cette confiance partagée, qui non seulement soude le conseil presbytéral, mais le porte, c'est la confiance qu'il y aura toujours une main tendue, une oreille attentive, un regard bienveillant, qui ne cherche pas son propre intérêt, mais qui a le souci de l'intérêt général et qui, à ce titre, aura aussi le souci de vous. Et puis, troisième point d'appui, c'est l'éternel, la foi en Dieu. Les autres, les conseillers presbytéraux, sont déjà une figure de l'autre qui désigne Dieu. Mais au cas où cela vous aurait échappé, Dieu est bien au-delà du conseil presbytéral. Et la foi en Dieu, c'est la confiance que nous avons dans la vie. La parole de Dieu, portée par Jésus, indique bien que ce n'est pas Dieu qui va déraciner ce sycomore et le planter en mer. La foi, ce n'est pas la confiance dans un personnage qui, quelque part, agirait à notre place, nous le répétons souvent ici. La foi en Dieu, ce n'est pas soudainement une sorte d'oreiller de paresse. La foi en Dieu est quelque chose d'extrêmement dynamique. La foi en Dieu, c'est cette confiance que nous avons dans le fait que les relations fraternelles avec celles et ceux qui partagent notre existence peuvent déboucher sur une qualité de vie qui dépasse largement ce que nous pourrions bâtir si nous nous appliquions à ne compter que sur nous ou sur nos petits camarades. La foi en Dieu, c'est la confiance dans le fait que la vie recèle d'une variété infinie de possibles pour atteindre de nouveaux niveaux d'existence et que ce niveau d'existence sont atteignables non pas une fois de plus par un effort de notre volonté propre, non pas par un effort de notre communauté de gens qui nous ressemblent, mais à travers le détour qui passe par l'autre, celui que nous n'avons pas choisi, mais qui, en l'occurrence, vous a choisi. La foi en Dieu, c'est notre confiance dans la possibilité de déjouer ensemble les pronostics pessimistes, de démonter les mécanismes mortifères, d'intensifier le bonheur, d'accroître l'intelligence des situations de telle manière que notre environnement est un petit peu moins inquiétant et donc un peu plus vivable. La foi en Dieu, c'est découvrir qu'à travers le regard de l'autre, non seulement notre existence prend un autre sens, une autre dimension, mais que notre compréhension du monde s'enrichit et que les décisions que nous prenons sont donc autrement plus informés et donc meilleurs. La foi en Dieu, c'est ce que vous offre l'Église ici réunie. C'est votre cadeau du dimanche matin. La foi en Dieu, une fois de plus, ce n'est pas un effort de votre volonté propre, c'est quelque chose qui vous est offert. Et à vous d'en disposer le plus pleinement possible. Cette Église, dont l'Assemblée Générale vous a confié un mandat, est une Église qu'il vous faudra regarder souvent. Et après tout, vous êtes un peu en hauteur, profitez-en, vous verrez un peu mieux les regards. Observez cette Assemblée, scrutez-la et ressourcez-vous en elle. Observez bien que cette Église n'est pas à votre mesure. Cette Église, cette communauté vous dépasse largement. Elle vous transcende. Elle transcende aussi bien vos espoirs que toutes vos définitions, que toutes vos décisions. Elle est plus large que vos capacités. Elle est plus large que votre horizon théologique. Cette communauté n'est pas une communauté contre vous, évidemment. Ce n'est pas non plus une communauté pour vous. C'est une communauté avec vous, mais c'est aussi votre communauté. Mais vous découvrirez aussi que le principe de réalité fait que vous n'êtes plus tout à fait de cette communauté. Il y a comme dans cette prière sacerdotale que Jésus adresse, « Je suis dans le monde sans être du monde, et mes disciples sont dans le monde sans être du monde. » Et dans une certaine mesure, vous êtes dans cette Église sans être de cette Église. Mais cette Église est là pour donner de la voix avec vous. Pour dire avec vous ces paroles qui font lever de terre les situations qui semblent irrémédiablement fichues et les personnes qui semblent irrémédiablement fichées. La foi en Dieu qui s'exprime à travers cette communauté rassemblée, qui n'en est qu'un des visages, vous rappelle aussi que tout ne dépend pas de vous. Que tout ne repose pas sur vos épaules. La foi en Dieu, c'est ce qui vous autorise personnellement à incarner, sans vous épuiser, sans sombrer dans un burn-out, la mission de conseiller presbytéral pour aller au-delà de la simple gestion et prendre part à cette œuvre civilisatrice qui dresse, qui ressuscite l'humanité, toute l'humanité, même en milieu hostile. Amen. Comme je me doutais bien que je finirais par avoir un ton extrêmement grave pour vous dire des choses que je voulais joyeuses, j'ai prévu ce cantique 297 qui vous dira l'état d'esprit dans lequel j'étais, même s'il y avait une forme de gravité, de solennité plus forte que ce que je voulais. « Ô Dieu des grâces éternelles », les strophes 1, 2 et 4, pour être sûr que vous retrouviez bien le sourire. Prenons place. Tout d'abord, vous informez que quelqu'un parmi vous a peut-être perdu un bijou durant la vente. Si c'est le cas, il est possible qu'il ait été retrouvé par Catherine Bretet, qui est à la maison presbytérale, et il suffirait que vous alliez à sa rencontre. Après le culte, il y a donc ce repas qui est organisé à la maison presbytérale. Merveilleuse choucroute qui s'annonce. Il convient peut-être d'acheter tout d'abord votre ticket repas, en quelque sorte, auprès de Jean-Claude Hureau, qui est à la sortie. Je crois que c'est 15 euros pour les adultes, 5 euros pour les enfants, et puis à partir de 20 euros pour un tarif de soutien. Il y a encore tout à fait de la place pour cela, et ça permettra, comme cela, d'accomplir ce temps de la vente qui fut un moment très heureux. Un peu fatigant pour certains aussi, c'est la raison pour laquelle ce soir ce sera le repos du guerrier. À 20h45, les tontons flingueurs. Pour ceux qui n'auraient pas payé leur redevance et qui ne pourront pas le voir, il y a au comptoir librairie un DVD sur Théodore Monod, réalisé par Caroline Rössner, qui pourra tout à fait occuper un bon moment. Et puis c'est peut-être aussi un bon cadeau de Noël, un DVD qui retrace aussi bien la vie professionnelle que personnelle et la vie spirituelle de Théodore Monod. Donc c'est au comptoir librairie où vous trouverez également beaucoup de livres sur Noël, y compris des ouvrages pour les enfants. Et donc c'est une bonne manière peut-être de trouver là ce qui permettra de faire venir un peu Noël sous l'angle spirituel dans les foyers. Vous avez aussi de l'autre côté les douceurs pour le plateau télé de ce soir, quelques victuailles et aussi encore quelques effets vestimentaires qui seront l'occasion de contribuer à l'effort de la vente dans la grande sacristie. Donc, Dans le programme de notre semaine, lundi à 19h30, les étudiants en grec du groupe Progressons se réunissent à 19h30. Le lendemain, mardi, dernière séquence de notre initiation à la théologie, c'est à 20h. Jeudi, il y a la répétition du chœur, toujours à la maison presbytérale à 19h30. Samedi, c'est ici même la formation pour les organistes qui est assurée par Jean-Dominique, notre organiste titulaire. À 10h, l'hébreu biblique, animé par Gilles Castelnau. Et dimanche prochain, le culte présidé par le pasteur Marcel Manoel. Il y a également l'après-midi les routiers qui feront un petit compte-rendu. Et donc, Luna souhaitait nous en dire un mot pour nous inviter dimanche prochain à 16h.
Bonjour à toutes et à toutes. Je m'appelle Luna Kindler et je fais partie du groupe de l'ancienne route oratoire. Je suis ici d'abord pour vous remercier toutes et toutes parce que ça fait 2 ans qu'on a commencé à monter notre projet et voilà, vous nous avez tous suivis, tous aidés, tous soutenus et on est parti donc cet été faire un projet humanitaire au Chili. Je remercie également particulièrement le pasteur Pernaud et le pasteur Woody qui nous ont suivis de près et qui ont cru en nous. Voilà, je voulais donc tous vous inviter dimanche prochain à 16h. La salle Mono ouvrira ses portes. D'abord, il y aura un buffet. Vous pourrez éventuellement discuter avec l'équipe. Et à 17h, aux alentours de 17h, il y aura la projection du film qu'on a monté sur tout notre voyage. Voilà, donc si vous intéresse, n'hésitez pas à venir, nous serons ravis de vous accueillir. Merci beaucoup, bon dimanche.
Que les choses soient claires, si nous les avons suivis de près, ni Marc ni moi n'avons eu le droit d'aller au Chili avec eux. C'est maintenant, frères et sœurs, le moment de l'offrande. Et bien que ce soit pour nous un temps pour vivre de manière extraordinaire ce geste ordinaire du don. Éternel notre Dieu, tu nous as liés les uns aux autres dans cet enchevêtrement complexe qu'est notre vie. Fais-nous la grâce de nous rendre compte à quel point nous dépendons du courage, du labeur, de l'honnêteté, de l'intégrité de celles et ceux dont tu nous rends proches, de telle sorte que nous soyons conscients de leurs besoins, de telle sorte que nous soyons reconnaissants pour leur fidélité et que nous-mêmes, nous soyons fidèles dans notre responsabilité vis-à-vis d'eux. Nous te le demandons au nom de cet évangile que tu nous adresses, évangile qui a retenti tout autour du Christ Jésus, lui qui a enseigné à ses disciples à te dire cette prière que nous t'adressons maintenant en nous levant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, encore une exhortation de Paul. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, car c'est la volonté de Dieu à votre égard par Jésus-Christ. Frères et sœurs, le Dieu de la paix nous sanctifie totalement, en tout temps et en tout lieu. Amen.